Ariane sur l'archipel interdit. Une création sonore de Radio Utopia, librement inspirée du roman Island d'Aldous Huxley et réalisée avec les habitants et les habitantes du territoire Vézère-Monédière-Mille-Sources avec le soutien des ateliers Médicis. Épisode 4, Pala, archipel pacifique.
Après mon repas bouddhique, je reçus la visite de Madame la Consule. Elle me dit pour me rassurer qu'elle venait en amie afin de m'interroger sur mes intentions à l'égard du peuple de l'archipel interdit. Elle éclaircit en même temps le sens du terme « interdit » qui avait été attribué par précaution, non pas par méfiance à l'égard des étrangers, mais pour préserver le mode de vie précieux et unique des Palanais. Elle m'expliqua les dispositions qui remplacent le gouvernement sur l'archipel interdit.
Oui, depuis la réforme de l'archipel Pala par l'ancien Raja et le docteur Andrew, notre mode de vie est devenu pour nous l'habitude d'agir pour le mieux. Il nous est possible de vivre sans nous voler les uns les autres. C'est là les bases de notre vie et de notre bonheur.
Vous n'allez pas me dire qu'à Pala, personne ne transgresse cette règle de bon voisinage.
Ah, évidemment non. Mais lorsque ces transgressions se produisent, tout le monde, y compris le transgresseur, les reconnaît pour ce qu'elles sont. L'erreur d'un ami, non pas l'habituelle façon d'agir d'un être réduit à devenir l'ennemi de la société.
Vous voulez dire que vous n'avez pas chez vous de classe criminelle?
Mais comment en aurions-nous? Nous n'avons pas de classe riche pour faire naître par l'injustice de l'État des ennemis de l'État. La propriété privée abolie, toutes les lois et les faits qualifiés de crimes et délits qu'elle avait engendrés disparurent tout naturellement. Il fallut dès lors traduire le commandement « tu ne voleras point » par celui-ci « tu travailleras pour mener une vie heureuse ». Est-il besoin de la violence pour faire respecter ce commandement?
Eh bien des actes de violence chez vous quand même.
Ah, considérons de plus près le problème et voyons d'où proviennent les actes de violence. Parmi ceux-ci, les plus nombreux étaient jadis l'effet des lois sur la propriété privée, qui ne permettaient qu'à quelques privilégiés la satisfaction de leurs désirs naturels. Toutes ces causes de violence-là ont disparu. Le succès qui consiste à rouler son semblable a cessé d'ouvrir le chemin de la gloire. Chacun a la liberté d'exercer au maximum son talent particulier et tout le monde l'y encourage. Nous avons ainsi éliminé le visage renfrogné de l'envie. C'était à l'origine de bien des malheurs et de bien des ressentiments, lesquels, chez des êtres passionnés, aboutissaient souvent à des violences.
Alors les violences n'existeraient plus parmi vous?
Ah, ces choses arrivent parfois. La chaleur du sang a ses égarements. Il se peut qu'un homme en frappe un autre, que celui-ci riposte, et que, le pire arrivant, un homicide en résulte. Et puis, faut-il que nous, ses semblables, nous aggravions le mal? Aurons-nous donc assez médiocre opinion les uns des autres pour croire que la mort crie vengeance, alors que nous savons que s'il n'avait pas été blessé, il aurait, lorsque le sang-froid lui serait revenu, et avec lui la faculté de peser toutes les circonstances, pardonné à l'auteur de sa blessure? Ou bien encore, est-ce que la mort du meurtrier ramènera à la vie sa victime et guérira la douleur de ceux qui l'ont perdue?
Certes, mais voyons! La protection de la société n'exige-t-elle pas quelques châtiments?
Bravo Ariane, cette fois-ci vous avez fait mouche. Mais le châtiment, qu'est-ce donc, sinon l'expression de la peur? Nous, qui vivons parmi les amis, nous n'avons nulle raison de craindre ni de châtier. Si par crainte d'un homicide exceptionnel et fortuit, d'un geste brutal fortuit, nous allions solennellement et légalement commettre un homicide et un acte de violence, nous ne serions qu'une société d'êtres lâches et féroces. N'est-ce pas votre avis, Ariane?
Oui, oui.
Toutefois, comprenez bien que lorsqu'un acte de violence quelconque a été commis, nous attendons du transgresseur qu'il fasse réparation dans toute la mesure de ses moyens. Et il s'y attend lui aussi. Mais là encore, demandez-vous si le fait de supprimer un homme qui céda à un moment de colère ou de folie, ou de lui porter un grave préjudice, constitue un dédommagement pour la communauté. Ce ne peut être qu'une aggravation du mal.
Ces paroles me laissèrent songeuse. Je me demandais si, dans une société où l'on n'éprouve ni le besoin d'échapper à un châtiment, ni de l'emporter sur la loi, le remords suivait inéluctablement la faute.
Oh, c'est pas vrai, ça recommence.
Vous écoutez Radio
Encore des interférences.
C'est en train de devenir dingue.
Vous écoutez Radio Utopia.
Si on reprend un peu l'histoire de l'utopie et d'où ça vient, c'est Thomas More. Disons que c'est quelqu'un qui a construit ça rationnellement, entre guillemets, parce qu'il voyait des choses qui se passaient dans sa vie, dans sa société, qui lui plaisait pas forcément, et s'est dit et si on faisait comme si ou comme ça, etc. Donc c'est hyper construit, quoi. C'est de l'imagination, quoi. On se projette dans quelque chose qui pourrait peut-être exister. Enfin voilà. Je trouve que ça relève de la volonté, l'utopie. C'est bien parce que c'est un espace de liberté au final où on peut imaginer tout et n'importe quoi. Très clairement, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui nous montrent qu'on va vers des choses un peu sensées par rapport, au changement climatique, des choses comme ça. Et du coup, c'est très dur de se projeter dans quelque chose qui pourrait marcher parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui gouvernent nos sociétés. Bah, comme je disais, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à se faire des projections un peu positives de où est-ce qu'on voudrait aller, etc. Du coup, je trouve ça hyper intéressant de travailler là-dessus, sur dans quel univers j'aimerais bien évoluer au final, quoi. Pour moi, l'utopie, oui, c'est ça. Et c'est toujours, au final, vachement lié à l'économie et à l'urbanisme, parce que en fait c'est vraiment une histoire d'espace et d'interaction sociale au final, en tant qu'être humain. Ce qui est important, c'est notre perception et nos expériences, et donc elles se vivent à travers l'espace et à travers les gens qu'on rencontre, quoi. L'utopie au final c'est surtout un bon exercice de l'esprit pour savoir où on veut aller. On va écrire, ou on va penser à justement un environnement avec des gens, comment ça fonctionne, etc. Et au final, c'est vers là où on veut tendre. Et après, la réalité, bah ça c'est la magie de la vie. Ça se passe jamais comme ça. C'est toujours différent. Et puis, faut toujours savoir improviser ensuite.
Un rapide retour sur l'antenne de Radio Utopia pour retrouver tout de suite Conrad Baxter, qui normalement est toujours en direct sur la terrasse de l'île de la Rencontre, en compagnie de ses invités, pour son émission des 4 jeudis, Pas la parole. Conrad, est-ce que vous m'entendez ? Conrad, c'est à vous.
Oui, tout à fait. Je suis toujours avec Assim, François, Frida et les autres, mon cher Claude Tessot. Je parle tout bas car ils sont dans de grandes discussions et je vais tenter de tendre mon micro car ce dont ils parlent va sûrement intéresser au plus haut point nos utopistes auditeurs de Radio Utopia. Ne quittez pas.
Chaque individu est soit en harmonie dans les idées, dans le comportement, dans les règles. Et c'est pour ça que c'est pas possible, parce que là, je vois sûrement qu'on n'est pas d'accord avec François. Donc, déjà, on ne peut rien, on ne peut pas aller jusqu'au bout de notre concept.
Je veux dire simplement que les idées, ça discute.
Oui, tout à fait. Non, mais on parle de l'utopie, là.
C'est ce qui est intéressant.
Ah bah oui.
2 et 2, ça fait 4.
Oui.
Désolé. Voilà, c'est tout.
Et pourquoi pas 2 et 2 font 5, après tout.
Oui, bah, si 2 et 2 font 5.
C'est ça, l'utopie.
Maintenant, quant à Karl Marx, c'est un excellent sociologue qui a mis à jour les réalités du monde du développement industriel tel qu'il la voyait d'une façon qui est merveilleuse. C'est un constat de la réalité qu'il a fait, justement. Ça nous ramène justement aux réalités et pas à l'utopie.
Alors, vous pensez que l'utopie n'a pas du tout changé depuis Thomas More ? Non, mais je pose la question.
Le concept, l'idée de l'utopie ?
Non, mais parce que je pense que... Tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce qu'est un monde idéal.
Non, c'est
oui. Non, mais non. C'est le besoin qui est toujours le même.
Oui, le ah, mais je... oui, oui. Oui, oui. Ah, oui, 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 d'accord. Oui,
d'accord. Besoin ou désir ?
C'est pour vivre.
Ah, le besoin ou désir, ah, oui.
Besoin ou désir, l'autre chose. Ouais. Je me tais, parce que là...
comme c'est un morceau de bois, là, on ne peut plus vivre. Donc il faut bien s'inventer un monde.
Oui, non, c'est sûr.
Mais
tout le monde
mais ne le se monde qu'on s'invente, c'est pas forcément pour les autres. Hein. Ça peut être que pour soi.
Ça peut être son échappatoire. C'est ce que je veux dire.
Ça peut être que.
Je suis complètement d'accord avec
ça. Et en ce moment, on est plus dans le monde de l'avoir que de l'être. On dit pas je suis donc j'existe, mais j'ai donc j'existe.
Le niveau individuel. Là, on parle d'une utopie pour tout le monde. Mais non, ça peut être... C'est rien que pour soi. Rien que pour soi.
Radio Utopia, la radio dans vos rêves.
Je sais que tu ne veux pas te protéger. Je sais que si ta peur est là, tu la vois mais ne veux pas l'écouter. Je sais que les champs sont immenses et les papillons blancs, que le printemps frappe la cadence de ton corps insolent. Je sais que pour toi le monde est politique, que ta tête en émoi construit déjà son paradis utopique. Aime, pleure, expérimente, mais ne mesure personne à l'aune de ton cœur. Danse, vibre, chante, mais ne laisse personne te dicter ton bonheur. Et sois le seul auteur de ta seule vérité, et sois le seul gardien de ton intégrité.
Toujours sur la terrasse de l'île de la Rencontre avec Assim, François, Frida et les autres, je vais peut-être me permettre de vous poser une question si vous le voulez bien, mesdames et messieurs. L'utopie, c'est bien Thomas More, le génial inventeur de ce concept.
Un projet politique apparu comme un des précurseurs du communisme, avec cette idée donc de abolition de la propriété et de la monnaie comme étant deux obstacles majeurs à la félicité du genre humain.
Et il y a la question du travail aussi. Le travail pour le bien de tous, tout le monde travaille pour le bien de tous et non pour le bien de quelques-uns.
Voilà, il y a du vécu. Moi je prenais comme un exemple de projet utopique réalisé mais partiellement, la sécurité sociale. La libération, à la suite du CNR, dire que les gens, quand ils arrivent à un certain âge, ils pourront, sur leur vieux jour, être soignés, etc., etc., pouvoir avoir une fin de vie qui soit à l'abri des maux de l'existence, du besoin, etc. C'était un bel idéal porté par la résistance, et même avant, sans doute, qui a... Oui, mais qui s'est mis en place en France. D'ailleurs, beaucoup de pays nous l'envient, ou ont pris modèle sur nous.
Mais
il est vulnérable, et depuis, il a été bien altéré, on est bien d'accord, hein. C'est-à-dire qu'il y a des délégués de la CGT qui, dans les départements, ont mis en place des caisses locales pour que les gens puissent faire rembourser leurs soins, etc., etc. Donc ça a été mis en place concrètement, en quelques mois, par un syndicat. Donc on a un exemple ici de projet qu'on peut qualifier d'utopique parce qu'il porte sur un idéal de choses à conquérir, à gagner, etc., qui a été mis en place. Même si par la suite, on est d'accord pour dire qu'il a été, un peu mis à mal, comme aujourd'hui. Mais quand même, hein, pouvoir, sur la fin de ses jours, pouvoir être à l'abri du besoin, et même un peu avant. Oui, parce
avant
que...
la fin de ses jours, parce que dès que tu travaillais, tu avais... T'avais une cotisation qui allait pour te soigner au cas où t'es malade.
Il y a les trois composantes. Il y a vieillesse, maladie et puis familiale.
C'est le chômage. C'est ça qui est utopique. C'est ce qui est utopique. C'est pas pour soi.
Je vois que Redan aimerait bien prendre la parole pour exprimer une idée peut-être un peu plus précise, pas différente, mais plus précise sur ce qu'est l'utopie, n'est-ce pas?
Je vais sortir un peu de votre utopie que je trouve très réaliste pour une autre utopie, celle d'un écrivain. Hein, qui pour lui, l'utopie est devenue quelque chose de vraiment vital. Hein. Donc c'était après la Première Guerre mondiale, la chute de l'Allemagne, la montée du nazisme, et un monsieur, ce monsieur Hermann Hesse, un écrivain. Alors je vous lis un petit passage. Au milieu de ces menaces et de ces dangers, pour l'existence physique et spirituelle d'un écrivain de langue allemande, je recours aux moyens de sauvetage de tout artiste, c'est-à-dire à la création. Je repris mon vieux projet qui, aussitôt, sous la pression de l'instant, se modifia fortement. Deux choses alors se présentèrent à moi. Construire un espace spirituel dans lequel je pourrais respirer et vivre, en dépit de tous les poisons du monde. Un refuge, une forteresse, et deuxièmement, exprimer la résistance de l'esprit aux puissances barbares et renforcer si possible la résistance et la persévérance des amis de là-bas en Allemagne. Voilà un beau projet pour moi d'utopie, celle qui sert à vivre tous les jours, à dépasser le monde réel, le monde économique, le monde... même celui des relations entre les hommes, et de changer toutes les valeurs. Hein, c'est ce qu'il a essayé de faire dans son roman Le jeu des perles de verre, c'est-à-dire tout transformer et relier des choses qu'on ne peut pas relier, hein, c'est-à-dire à la fois le jeu, la musique, les mathématiques, des choses qui semblent loin les unes des autres et qui tout d'un coup, par l'intermédiaire de ce fameux jeu, se retrouvent et aider à vivre et à construire une société avec des valeurs complètement différentes de celles qu'on a aujourd'hui et qu'on avait hier.
À condition qu'on réutilise pas ces valeurs à des fins économiques et politiques.
Et maintenant, une information commerciale. On se retrouve tout de suite après avec Conrad.
À bras ouverts, vie élargie. À bras croisés, vie rétrécie. Avec Muscutopia, musclez vos utopies. Et pour un pack Muscutopia acheté, un Red Butopia offert. Red Butopia pour énergiser vos utopies. À bras ouverts, vie élargie. À bras croisés, vie rétrécie. Avec Muscutopia, musclez vos utopies. Et pour un pack Muscutopia acheté, un Red Butopia offert. Red Butopia, la boisson pour énergiser vos utopies. Muscutopia.
Radio Utopia. Pas la parole. Conrad Baxter.
Je me suis dit que dans les problèmes que rencontre l'humanité, celui de la misère matérielle était peut-être le plus important, et il suggère par l'absurde des mondes de partage, d'égalité, d'entraide, mais il y a un autre problème qui, pour moi, est pas forcément moins important, qui est celui de la misère morale, et où c'est pas un problème de confort, c'est juste un problème d'état d'esprit, et mon utopie c'était juste un état d'esprit qui transparaîtrait à travers la description du monde tel qu'il le perçoit, quoi. Et donc ce serait une description de notre monde, notre réalité, pour qu'on puisse se dire « Ah tiens, peut-être que c'est pas si mal que ça ». C'est un peu l'état d'esprit Leibniz quand il disait « C'est le meilleur des mondes possible ». « il y a une première étape qui pourrait consister à admettre que oui, il y a beaucoup de souffrance, que ce soit en moi, mais surtout dans l'ensemble du monde, et avec les guerres, avec voilà, beaucoup de problèmes sociopolitiques, économiques, ces choses-là. Mais ce qui est formidable, c'est le fait que tout ça peut changer. Et rien que cette possibilité est quelque chose d'enchanteur. L'utopie comme un moteur qui prend des sources dans l'imagination pour agir dans la réalité. De fuir seulement la réalité avec cette imagination, parce que l'utopie, d'une certaine façon, c'est aussi affirmer que ce qui est déjà ne convient pas. Même si c'est aussi essayer de le résoudre.
Oui, mais finalement, on a beaucoup parlé de Thomas More, mais connaît-on vraiment cet homme? Qui est-il? Qui est Thomas More? Est-ce un philosophe, un idéaliste, un scientifique, ou voire même peut-être un homme politique? Dites-moi.
Sur le plan conceptuel, je ne pense pas que l'utopie corresponde à une démarche scientifique. Thomas More, ce n'est pas un scientifique, c'est un politique. Bon, Marx est un économiste et un philosophe remarquable. Il a un projet à travers le Capital qui tient la route, et qui tient la route encore à mon livre aujourd'hui. Sa mise en œuvre, c'est autre chose. La mise en œuvre, c'est tout à fait autre chose. Donc, dans l'utopie, il y a cette dimension de l'imaginaire, du fantastique, de l'idéal, de l'idéal. Les scientifiques n'ont jamais brillé pour leur esprit d'utopie.
C'est tous des philosophes
et voilà. Voilà. Donc, je crois qu'à partir de là, il ne faut pas demander aux utopistes qui ont porté des projets de transformation de la société d'être de redoutables scientifiques pointus dans tous les domaines. Sinon, on confond les genres. C'est comme si on demandait à un poète d'être quoi d'ailleurs, je ne sais pas, un poète sans tout.
Voilà, c'est la fin de Pas la parole, c'est tous les 4 jeudis, et je vous laisse en compagnie de Pia dans ses pensées. Au revoir, à bientôt.
La lecture, ça peut nous emmener loin, dans des mondes extraordinaires et parfois imaginaires.
Ce serait plutôt la montagne des livres qui me plairait. Puis on pourrait de plus en plus faire ces petits exercices le matin sur l'imaginaire. Puis pour agrandir sa culture générale, s'ouvrir à d'autres mondes, d'autres pensées.
Épisode 4, Pala, archipel pacifique. Avec la voix d'Ariane von Berendt et de Marianne Pin dans le rôle de Madame la Consule, avec la participation d'Alain, Frédéric, André, François, Gérard et Monique de l'association Découverte et Patrimoine, avec la participation de Fontin et Basile et des enfants Pia et Louise, avec un poème de Cécile Desmaisons et le morceau « Springtime is coming » de Vicky Chéry, artiste en résidence à l'hôtel Experimenta. Réalisation, Élodie Chamoret, compagnie Les Funambules. Prise de son, Philippe Daudeville, Sam Bazu et Élodie Chamoret. Montage, Thierry Ginesté et Élodie Chamoret. Production, RGB, Radio KOB, la médiathèque intercommunale Vézère, Monédière, Mille Sources et les ateliers Médicis.
La suite au prochain épisode.